De 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications. Excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Canal FM.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à la 93.5. Nous sommes au mardi 13 août 2024. Il sonne 11h sur votre radio. Vous comprenez que l'émission Club de la Presse démarre ainsi. C'est le deuxième numéro pour le compte alors de cette semaine. Bien sûr, et bienvenue au club. L'équipe de coordination de l'émission de ce jour est composée de Kiki Sousa qui est au niveau de la technique. Jérôme Akucha est sur la mise en ligne avec son ingéniosité bien sûr. Et c'est grâce à lui que vous nous suivez partout dans le monde à travers nos plateformes digitales. Et je suis Pascal Lousseau au micro. Comme toujours, vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Je le disais, vous avez ce privilège aussi de nous suivre alors partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook et également des radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Vous le savez très bien, Club de la Presse, c'est le décryptage, le débat, l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi et aussi des invités. Alors, confrères journalistes en studio, Adam Adrenou, bonjour.
Bonjour Pascal. Merci pour l'invitation. Bonjour aux auditrices et auditeurs de la 93.5.
J'espère que tu vas bien.
Par la grâce de Dieu, la grâce.
On a bien débuté la semaine.
Tout à fait.
D'accord. Eric Pakoudjo, Johnson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers amis, confrères, chers invités. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Et le moral, est-ce qu'on tient le coup?
Oh oui, ça va.
Ça va, non?
On est de grands garçons.
Et justement, on est des grands garçons. Allez, condoléances à toi.
Merci beaucoup.
Oui.
Merci.
Autre confrère journaliste, c'est Jean-Baptiste Atisso. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent à travers le monde entier. Bonjour à ceux qui sont sur le plateau, nos collègues invités.
Voilà. J'espère que tu vas bien.
Ah, nous avons le souffle de vie aujourd'hui.
Ça, c'est l'essentiel. Nous avons le souffle de vie et nous devons remercier le Tout-Puissant pour cela. Nous sommes au mardi. Vous comprenez que la rubrique, ou du moins la chronique littéraire du mardi nous retrouve. Et c'est avec notre chroniqueur littéraire, Tis Claude Assiobo. Claude, bonjour.
Bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Ça peut aller à la Togolaise, oui.
Tout à fait, ça peut aller à la Togolaise. Quand on dit à la Togolaise, ça se comprend.
Oui, ça se comprend.
Et ça se comprend comment?
Et c'est quand même profond.
Pardon, on c'est profond?
On peut commenter ça en langue de journée.
Philosophiquement
ou bien littérairement?
Philosophiquement, littérairement, politiquement et moralement.
Tout à la fois. Alors, oui, Claude, nous allons nous intéresser à une œuvre hein, ce matin. Nous allons continuer par faire de l'hommage à Monseigneur Bariga Bénissant, qui est décédé tout récemment, vous le savez très bien. Mais c'est un homme de littérature, puisque avec son recueil alors de théâtre qui est dénommé Trône Royal, il a eu même d'ailleurs un prix, hein, le prix de meilleur théâtre déjà parti en 2020. Et aujourd'hui, quand on veut parler alors de l'homme sur le plan littérature, qu'est-ce qu'on peut dire alors de l'homme?
Oui, vous avez bien fait de préciser littérature, parce que n'oubliez pas que Monseigneur Bariga est d'abord un homme d'église. Moi, je peux classer ses œuvres en deux catégories. Il y a ses œuvres spirituelles. Il écrit beaucoup, hein. Il écrit beaucoup. Je ne sais pas où il trouve le temps. Il ses œuvres spirituelles et ce que je peux appeler les œuvres de l'esprit qui sont de sa part, hein, qui s'adressent à tout le monde. Et voilà. Et si vous pouvez me relancer la question.
Oui, mais quels sont les thèmes hein, qu'il aborde souvent dans ses écrits?
Dans les œuvres que je désignais de profanes, il s'intéresse surtout aux questions de la cité. Question de la cité, il n'est pas politicien, mais il s'intéresse aux questions de la cité. Je peux citer ces deux œuvres hein, principales dans ce sens. Il y a le Trône Royal, qu'il a écrit déjà lorsqu'il était étudiant hein, en théologie. Le Trône Royal, l'expression Trône Royal suggère quelque chose, et ça veut dire que nous sommes en politique. Et récemment, il a publié crise du pouvoir, abus d'autorité. Bon, c'est quelqu'un qui aborde les questions de la cité, non pas en coup de canon, hein, mais en un lanceur pacifiste d'alerte. Hein. Son message souvent c'est sauver la paix, sauver la justice, sauver l'amour. Hein. Souvent, je crois que si je peux résumer toutes ces œuvres profanes, qui rejoignent un peu, hein, mais aussi ces œuvres spirituelles, c'est un peu ça.
Voilà. On dirait tout simplement qu'avec ses écrits, Monseigneur Bariga rêvait d'un monde meilleur.
Ah, ben, comme tout le monde. Mais en tant qu'homme spirituel, chez lui, c'est plus profond.
Chez lui, c'est plus profond. Alors, nous allons parler de Trône Royal. D'abord, cet ouvrage, qu'est-ce qu'on peut y trouver?
Je dirais que je vais plutôt vous donner le profit de l'œuvre. Hein? Et ça m'ennuie de résumer. Ceux qui veulent lire iront trouver le résumé. Moi, je vais vous présenter le profit de l'œuvre. D'abord, le genre. C'est quel genre? Il y a un personnage, le griot, pas le personnage du griot. On peut penser à un conte à travers des personnages. Le personnage du griot, il y a un prologue, il y a une épilogue, tout ça. Mais on dirait que c'est une légende, mais c'est une pièce de théâtre. Mais c'est quel genre de théâtre? C'est le théâtre qu'on appelle la tragicomédie. Bon, c'est d'abord une pièce tragique. Ça veut dire l'homme qui est en conflit, hein, en conflit ou qui est face à des forces de la vie. Ici, il s'agit du milieu et des traditions qui l'écrasent, des forces qui l'écrasent. C'est ça la tragédie. Mais la tragicomédie, c'est une tragédie qui se termine bien. Hein. Bon, souvent, les gens disent tragicomique. Il y a aussi ce sens-là. Ce n'est pas toujours quelque chose qui est comique, mais toute tragédie qui, au lieu de terminer par la fatalité, se termine bien, on l'appelle la tragicomédie. C'est ce qu'il a écrit. Ça, c'est ça le genre. Et puis, je peux vous parler aussi de l'ancrage. Hein? L'ancrage, il part d'un milieu, hein, d'un cadre typiquement local, très local, c'est le cadre animiste, hein, qui parle des théocraties animistes, pour poser un problème universel de la liberté en général. Hein. Vous voyez, le thème est très local, vous allez croire qu'il s'agit de nos théâtres généralement avec Canary, Bocono, tout ce que vous voulez, mais c'est pas ça. Ça va très loin. Hein, ça va très loin. Il pose un problème de liberté. Et le style. Le style, c'est un style de parabole. Hein, vous savez que c'est un homme d'église. C'est très simple à la surface, mais c'est très profond. Et je peux vous parler aussi de la structure, l'architecture des idées, donnant la progression du texte une force puissante. Hein. La façon dont il enchaîne les idées, ça vous amène à... Ça vous donne de la densité, de la tension. Hein, de la tension. Alors, quels sont les messages? C'est d'abord un message d'évangélisation à travers toutes les religions. Il veut dire que même l'animisme, l'homme est sacré. Même par la religion animiste, l'homme doit rester sacré. Alors, ça veut dire rien ne doit le sacrifier, mais par contre, on doit tout lui sacrifier. On doit tout lui sacrifier parce que l'homme est au centre. L'homme, il doit tout lui sacrifier, mais il ne doit pas être sacrifié. C'est aussi un message politique. Hein. Il veut dire, un roi ne doit pas écouter ni la pression du passé, ni la pression de son entourage. Hein. Il ne doit compter surtout que sur sa conscience. Mais ce roi-là, ce n'est pas seulement le roi assis sur un trône comme c'est nous tous. L'homme, créature divine, l'homme, roi de la terre, c'est nous tous. Et cet homme-là, hein, et il vaut mieux, pour le sauver, il vaut mieux sacrifier, il vaut mieux, au nom de l'amour, toute règle qui veut le violer, il vaut mieux sacrifier cette règle que de sacrifier l'homme. Hein. Ça veut dire que lorsque dans une société, une règle, une loi est très unique et viole l'amour, il vaut mieux violer cette loi au nom de l'amour. Voilà à peu près, si je peux vous commenter un peu l'œuvre, ce que je peux vous dire.
D'accord, par rapport au style utilisé, vous avez dit que c'est un style parabolique qu'il utilise d'habitude. Est-ce que ça se fait sciemment chez Monseigneur Barriga?
Oui, bien sûr.
Parce que déjà, on sait que quand on prend quelqu'un comme Jean de La Fontaine aussi pour dénoncer un certain tard, ou du moins des choses quand même qui ne vont pas bien dans la société, et c'est des gens qui préfèrent utiliser plus de la métaphore, utiliser alors du parabole tel que ça se passe alors chez Monseigneur Barriga. Finalement, ça se fait sciemment?
Oui, mais
c'est à dessein.
Oui, d'abord, il a inspiré, mais je crois que toute son écriture est comme ça. Hein? Moi, je l'ai découvert lorsqu'il commentait Paroles de vie. Il a un style simple pour dire beaucoup de choses. C'est un classique en réalité. Les classiques, c'est comme ça. Hein? Un minimum de mots, de phrases pour dire beaucoup. Hein? Pour dire le maximum. Il y a un style classique, il n'aime pas les grandes métaphores. Hein. Mais d'ailleurs, si vous prenez la Bible, il n'y a pas de paillis, il n'y a pas de métaphore. Disons que c'est à la surface simple, mais tout est métaphore. Hein, et ce qu'on appellerait en littérature l'allégorie, ça veut dire tout est métaphore.
Tout à fait.
C'est l'ensemble qui devient métaphore. Mmh. Hein, c'est l'ensemble. Il faut aller au bout de tout le texte pour parler de métaphore. Hein, ce n'est pas des images par ici, par là. Mais tout le texte est une métaphore.
Voilà. Voilà. Alors, Claude, d'après ce que vous venez alors de présenter, c'est-à-dire le profil de l'ouvrage Trône Royal, on dirait tout simplement que c'est une richesse littéraire inépuisable. Hein?
Oui, justement, c'est ça la littérature. Je vous ai déjà parlé de la profondeur. Et lorsque vous êtes écrivain, et c'est ça qui manque souvent à beaucoup d'auteurs africains. Maintenant, ça vient. Et au Togo, il ne s'agit pas de raconter sa petite... Cette petite histoire de samedi soir, hein, et non.
Mais est-ce que ça demande...
Il faut convoquer la conscience humaine dans une œuvre littéraire.
Mais est-ce que ça n'amène pas aussi à l'évasion quand vous
Oui, bien sûr. Non, on parle
histoire.
De là, on parle de là, on parle toujours de là. Et une œuvre, on ne sait pas, hein. Une œuvre peut être très belle, l'histoire peut être très belle, mais vous amenez loin. C'est lorsque, il y a des histoires d'amour qui sont très percutante, mais qui vous fait creuser, qui creuse l'homme. Et d'ailleurs, les histoires d'amour, souvent, c'est des histoires où on rencontre des conflits intérieurs à l'homme. Hein. Mais lorsque vous racontez une histoire d'amour pour raconter l'histoire d'amour, ça, bon, c'est pour les guinguettes, c'est pour les jeunes. Mais une œuvre doit faire réfléchir, doit faire descendre dans l'homme, doit creuser l'homme, et quelle que soit l'histoire. C'est ce qu'on appelle l'approfondissement. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas encore de vraie littérature. Hein. Ça peut être un approfondissement sociologique, ça peut être philosophique, hein, ça peut être politique. Une œuvre doit questionner.
D'accord.
Et donner de grandes réponses à des questions que l'homme se pose.
Claude, pour finir notre entretien ou notre chronique de ce matin, finalement, comment vous définissez Monseigneur Nicodème Barriga, surtout sur le plan littéraire? Est-ce que c'est un engagé? Il est qui, finalement?
Non, engagé, j'ai déjà dit, hein, il ne proclame pas ses messages à coups de canon. Non. Tel que je le lis, c'est quelqu'un qui ne prend pas position, mais il est pour la vérité, la justice générale. Si vous le situez par exemple, si je dois le camper par exemple dans le paysage togolais, il va jamais sanctifier un camp contre un autre. Hein? Pour lui, c'est la paix pour tout le monde, la réconciliation pour tout le monde, l'amour pour tout le monde. Hein? Il faut sauver l'homme, tout ce qui est humain.
Il faut sauver l'humanité.
Et il dit souvent. Il parle souvent de lucidité. Hein, ce qui va triompher à la fin, c'est la lucidité de tout un chacun. Et d'un autre côté, il dit, ce qui menace l'homme, c'est l'appétit. Mmh. C'est l'appétit. C'est ça, c'est ce qu'il le dit lorsque je me retrouve avec lui, on échange. Voilà les deux mots que je peux retenir. Hein, la lucidité qui finira par triompher, quel que soit l'homme, mais... Et l'appétit qui menace l'homme. Mmh. Voilà.
Tis, Claude Assiobo, merci d'être passé alors dans cette émission.
C'est à moi de vous remercier.
Merci pour cette chronique littéraire que vous venez alors d'animer avec nous. Merci. Nous allons nous retrouver le mardi prochain pour une nouvelle chronique littéraire dans cette émission. Mais sans transition, nous restons toujours dans la culture et nous recevrons un autre invité, Espoir Gbogan. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les confrères.
J'espère que tu vas bien.
Je vais bien.
Je vois une guitare entre tes mains. Je te connais en tant que journaliste, mais je ne sais pas si tu sais jouer aussi de la guitare.
Ah, il se fait que je suis musicien d'abord avant de devenir journaliste.
Alors vous êtes musicien?
Ouais, musicien depuis plusieurs années, hein, depuis les bancs. Peut-être que je fais de la musique, mais beaucoup ne le savent pas parce que ça fait déjà des années que je suis dans la presse. Mais j'ai pas laissé ma musique. Je joue passionnément la musique quand il le faut. Et voilà.
Vous êtes toujours fidèle à cette passion, c'est-à-dire à cette musique. Vous venez même de faire sortir un album que vous allez présenter au public, à votre public, le vendredi prochain, c'est ça?
Oui, le 16 août, je présente mon album. Ce sera le premier qui compose 9 titres et ce sera à l'espace MIVA, le centre culturel MIVA, en face du MRS de Todman.
Mmh. Alors, vous avez comme nom d'artiste Kodjovu, c'est ça? Ça veut dire quoi?
Kodjovu, c'est juste le message, c'est que chez nous, le tam-tam porte un message. En Afrique, c'est un milieu élevé, je suis élevé. Donc, Kodjovu, c'est juste le message de Kodjo. Et ce message-là est basé sur un peu ce que véhicule Monseigneur Kodjo. L'unité, le fait que la raison primordiale et pure va finir par être un fait. Donc, moi, je parle de l'amour. Amour pour tout le monde, sans clivage. L'amour pour... ma musique est un peu au centre des cultures et des civilisations. Je ne fais pas de gospel, ni de musique séculaire, ni de musique catégorisée. Je fais une musique pour tout le monde, où tout le monde peut se retrouver. Si vous écoutez ma musique, que vous soyez animiste, chrétien ou non, vous allez vous retrouver, vous allez aimer. Voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ça mon plus grand message.
C'est-à-dire toutes les obédiences politiques et aussi religieuses pourront facilement alors se retrouver dans ta musique.
Effectivement.
Tu chantes pour l'homme, c'est ça?
Merci. Je chante pour l'homme. Mon message est à l'humain.
D'accord. Voilà. Alors, votre album est titré Amelola, c'est ça, non? Amelola. Ouais. Ça parle de quoi?
Amelola, c'est cet amour-là que j'ai découvert venant de Dieu, l'être suprême, l'incréé, qui nous aime malgré nos bassesses assez sombres. Dans la vie de n'importe quel être humain, il arrive des moments où on commet des actes ignobles. Même si on arrive à les justifier auprès des publics et de l'opinion, on sait qu'au fond de nous-mêmes, on a commis quelque chose d'incroyablement sale. Et on se résigne, on s'engouffre dans un lieu et puis on n'aimerait plus sortir. Et dans cet endroit-là, ce moment-là, il y a quelqu'un qui nous aime parce que lui, il est amour. Il voit des âmes, il ne voit pas le péché, il ne voit pas la saleté. Il nous aime et il nous aide à nous relever. Donc quand j'ai constaté qu'il y a des gens, qu'il y a un être suprême, peu importe le nom qu'on lui donne, qui s'appelle Mahou, bien Atta, ou bien n'importe quoi, qu'il soit un dieu chrétien, animiste ou non, il sort. Il est le dieu là qui aide n'importe qui à se relever, parce que c'est lui qui fait pleuvoir pour le bon et le mauvais, qui donne à manger à n'importe qui. Donc il n'a pas de parti pris. Donc j'ai constaté qu'il est amenant là. Il aime l'homme, tu vois, Amé chez nous, c'est l'homme. Il aime l'homme, donc c'est lui que je chante essentiellement.
D'accord. Alors, quelles sont les autres thématiques sur cet album?
Je chante beaucoup pour les religions, parce que j'ai compris qu'il y a une guerre de religion, il y a une forme de méfiance entre les religions, entre les cultures. Les chrétiens sont méfiants vis-à-vis des animistes. Les animistes n'aiment pas. Actuellement, nous avons les kamites qui veulent un appel à un retour aux sources. Ils détestent les chrétiens. Mais je pense qu'on peut trouver la paix. Et moi, je ne veux pas qu'on m'associe à une religion, à un chrétien, machin. Je veux être au milieu, dire, on peut s'accommoder, on peut se mettre d'accord sur quelque chose. On est humain, on a les yeux, on a le nez, on a la bouche, on a une âme, on a un esprit, on a un corps, on se ressemble. On peut se mettre d'accord sur le fait que Dieu aime tout le monde. Donc moi, je chante essentiellement pour l'homme, pour Dieu. Et quand vous écoutez ma musique, c'est sur ça et quelques thématiques aussi de la société. Éventuellement, mais le message essentiel, c'est beaucoup plus sur l'amour.
Vous pensez tout simplement que nous avons un dénominateur commun en tant qu'humains,
oui.
Et nous devons valoriser ce dénominateur commun et arriver à nous fédérer, à avoir la cohésion sociale autour de ce dénominateur commun.
Effectivement.
Voilà, Eric a une
question. Tel qu'expliqué, est-ce que ce n'est pas du gospel finalement?
Non, pas du gospel, parce que je fais appel à des notions qui sont
Ça veut dire qu'on doit rechercher la définition de gospel.
Oui, le gospel, je me dis que le gospel, c'est une musique essentiellement chrétienne chantée dans les églises.
Uniquement.
Donc, oui, le gospel est chanté par des
puisque le fondement même du gospel, c'est nos ancêtres qui ont été esclaves et qui cherchaient à s'épanouir et qui faisaient leur musique. Mais est-ce que c'est sorti de notre animisme quand même?
C'est ce débat-là que moi, je n'aimerais pas faire pour voir d'où vient quoi, qui fait quoi. Oui. Moi, je fais juste de la musique.
C'est pour ça que je dis toujours, quand les gens disent « je fais du gospel parce que je suis chrétien, parce que je parle de Dieu », je dis non, on peut faire du gospel en étant animiste. Parce que nous parlons de la créature, tout simplement.
Mais dans l'église, il y a un message d'évangile qu'il faut dire, il faut aller apporter la bonne nouvelle aux gens. Et pour moi, parfois, c'est clivant. Certains ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ, mais ils aiment Dieu.
Voilà.
Donc, si c'est Jésus le problème, ok, on ne l'écarte pas de Dieu. Point barre. Et pour moi, tout ce qui divise, on peut s'en passer.
C'est ce que moi j'appelle du gospel.
D'accord.
Alors, oui, c'est vrai que vous avez votre guitare, vous allez nous faire une prestation tout de suite.
Un
acapella. Bien sûr. Mais dites-moi, c'est quoi la perspective?
Tu sais, c'est compliqué, on peut pas être journaliste.
C'est-à-dire, du jour au lendemain, l'espoir ne sera plus journaliste, il sera plutôt un artiste.
C'est une bonne éventualité, je pense quand même dans mes projets de libérer un peu la rédaction et de me consacrer à la musique, parce que c'est ce que j'aime le plus. Mais pour le moment, je reste dans ma fonction, je sais que c'est une passion, la musique, je le fais pour le moment et après, bon. Si les entités veulent que je passe à autre chose, je passe à autre chose.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de confrères que nous voyons ces derniers temps et qui chantent et qui deviennent aussi des pasteurs.
Comme Didier.
Voilà, Didier Assomba, il y a Elombe Pogo. Justement, qui est aussi chantre.
Ouais.
Et donc, ça fait quand même du bien à la corporation, Eric.
Non, mais écoutez, la musique, comme on dit, elle adoucit les mœurs. Hein. Et personnellement, je n'aime pas souvent parler de moi. Moi, quand j'étais encore gosse, je suivais Jimmy Hope. C'est lui qui a été mon premier maître à la guitare. Oui. Okay. Et donc, c'est avec lui que je faisais les petites touches de guitare et tout ça. Mais je pense qu'à un certain moment de notre vie, nous devons quand même aller vers la musique. Ça nous apaise et ça nous évade. Hein, et je crois que c'est une très bonne chose si des jeunes confrères arrivent à tenir, parce que faire de la musique, j'avoue que c'est une entreprise aujourd'hui. Il faut beaucoup investir et on a besoin de soutien. Je ne sais pas comment ils font pour sortir leur album, mais c'est pas évident du tout.
D'accord. Alors, quels sont les titres alors sur cet album, Espoir?
Il y a 9 titres. Essentiellement, je parle de C. C'est quand on parle de C chez les chrétiens, ça passe pas trop. Mais C, c'est le destin.
C'est
le destin, Dieu, peu importe comment on le donne. J'invoque mon C pour me donner beaucoup d'amour afin d'aimer tout le monde. Afin d'aimer le juste, le mauvais, le bon. Afin de donner à boire à tout le monde. Je parle de comment est-ce que Dieu donne, fait briller le soleil pour tout le monde. Je parle de l'amour entre prochains, essentiellement. Voici les thématiques que j'aborde essentiellement sur l'album.
Mmh. Alors, c'est quoi ta chanson ou ton morceau préféré sur cet album?
C'est à vous de le dire.
D'accord. Alors, moi, je te choisis. Enfin, je te laisserai choisir un morceau que tu sur lequel tu feras un a cappella pour au moins nous bercer un tout petit peu dans ce studio.
Et j'ai choisi un morceau pour le Togolais. Pour tout Togolais qui passe par des moments compliqués, il y en a qui arrivent parfois à se dire ça n'en vaut plus la peine. Je comprends. Je ne prends pas position comme moi.
C'est Justin Nani qui.
Et effectivement.
Donc, qui pense que, bon, aujourd'hui c'est une fatalité.
Bon, c'est juste pour taquiner Justin.
Pour tous ceux qui ne sont pas parvenus à accomplir le destin au Togo, ceux qui sont partis trop tôt. Et qui ont une raison de partir, ce morceau, c'est pour eux.
Leur est dédié. Ouais.
Ça, d'Orené, l'ouvondia son, vomingafa, mon, mingafa. Nye louvon a dire me a son vos minga famo minga famo ne denigba jezo de ma afika ma Afika mai ne fonyewe hajret pema Afika ma no amekaye maglena za donenye luvondia son Vominga famo, minga famo.
Merci beaucoup, Espoir Vaugan.
Merci. Tu m'as envoyé très loin.
Je sais que vous avez envoyé Rick très loin.
Ça m'a rappelé
une chanson de résignation.
Et Eric, Justin, nous allons nous retrouver déjà le vendredi prochain à 19h, hein, bien sûr, et c'est à l'espace Miva, l'espace Miva, et ce serait l'entrée...
À 5 000 à 10 000.
Ah voilà, l'entrée à 5 000 à 10 000.
Oui,
d'accord. 5 000 à 10 000. Okay, donc si vous avez un mot rapidement...
Venez, nous allons célébrer tout ce qui est togolais, tout ce qui est africain, tout ce qui est amour, tout ce qui est courage, tout ce qui est compréhension de l'autre. Mmh. Voilà, le vendredi.
D'accord. Merci beaucoup, Espoir Vaugan, Kodoboum, pour le nom d'Atis. Ouais. Merci d'être passé dans cette émission. Merci. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous, de vous recevoir dans cette émission. Merci d'être passé.
Merci.
Alors, chers confrères, nous revenons en studio pour notre débat. Et je voudrais qu'on commence ce débat avec ce sujet des sports. Et Eric, c'est vrai, vous avez écrit à la une de votre journal ce matin, bilan du Togo au JO Paris 2024,
Akpaki de l'ADEME, qui vous citez, Akpaki de l'ADEME, nous allons nous projeter sereinement vers Los Angeles 2028. Alors, on sait que déjà le dimanche dernier, les JO de Paris sont terminés et ils ont fermé leurs portes et avec même d'ailleurs une cérémonie alors de clôture quand même qui a été spectaculaire et nous avons tous ensemble vu cela au niveau alors de la télévision et mais quand on prend aujourd'hui la prestation du Togo à ces JO, qu'est-ce qu'on peut retenir, Eric?
Non, je peux dire peut-être si je peux me le permettre, félicitations à nos athlètes qui ont valablement représenté le pays, même si le résultat n'était pas ce que nous attendions. Je voudrais dire tout simplement que nos athlètes ont essayé et de représenter valablement le pays par rapport à leur niveau et par rapport à leur préparation. Je voudrais dire, oui, je vous ai suivi hier un peu, quand on me parlait, on me disait qu'ils ont été derniers dans toutes les épreuves. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des athlètes qui ont réussi à se qualifier pour ces Jeux olympiques. Ils sont au total 5 pour 4 catégories. Ils sont allés, ils ont essayé de compétir. Malheureusement, ils n'ont eu aucune médaille. Certes, c'est pour ça que le président du comité olympique du Togo, de l'ADEME Akpaki, qui a été approché par des confrères, a dit que c'est une prise d'expérience qui va nous permettre de nous projeter sur les prochains Jeux olympiques qui se tiendront à Los Angeles, aux États-Unis. Et je pense qu'en le disant, c'est qu'il doit quand même chercher des moyens parce que en réalité, le travail du Comité national olympique du Togo, c'est d'être la jonction entre le Comité olympique international et notre pays, le Togo. Maintenant, pour la préparation des athlètes, pour leur suivi, pour leur prestation, je crois que ce rôle-là est dévolu au ministère des Sports, qui doit forcément mettre les moyens pour permettre à ces athlètes-là de mieux se préparer et de pouvoir aller de l'avant. Pour le faire, il faut forcément qu'on organise chez nous des compétitions. Même s'il y a des compétitions dans la sous-région, il faut que nos athlètes puissent participer. Sans compétition, vous ne pourrez jamais avancer. Je crois qu'il faut aller se frotter aux autres pays, aux autres athlètes des autres pays pour pouvoir performer. Je crois que aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde dira que résultat zéro, etc. Certes, mais je pense que nos athlètes ont fait de leur mieux. D'accord. Par rapport à leur préparation.
D'accord. Alors, Adam, est-ce que nous pouvons dire ou bien on pourra avoir l'impression que les niveaux de prestation étaient, surtout au niveau, enfin avec le JO, les JO, le niveau était un peu élevé par rapport à nos athlètes?
Non, pas tout à fait. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer, en tout cas, cette piètre prestation de nos athlètes. Bah, d'abord, il faut le calquer sur le résultat global des athlètes africains qui, lorsque vous le prenez, ont fait mieux qu'il y a 3 ans au Japon. Ils ont eu au total 39 médailles, 13 en or, 12 en argent, 14 en bronze, ce qui n'était pas le cas, qui est loin d'abord des perspectives, mais qui n'était pas le cas aussi avec ce qui s'est passé au Japon. Mais lorsque vous prenez ces athlètes, vous venez de le dire, on a eu 5, pour la plupart du temps, ce sont des athlètes qui évoluent, sont togolais, mais qui évoluent dans d'autres pays pour la plupart. Il est très difficile, je ne sais pas s'il y en a, parmi les cinq qui sont qui évoluent essentiellement au Togo. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Il faut prendre le mal par la racine. Bon, Eric parlait tantôt d'un certain nombre de facteurs. Mais moi, je pense que la motivation également réside ailleurs. Il faudrait que s'il y a cette volonté, comme l'a dit, moi, je ne l'ai pas interrogé, je n'ai pas interrogé de la Demakbaki pour en savoir ce qu'il en est. Mais on sent qu'il y a une volonté de voir, en tout cas, les athlètes togolais briller au Fimama. Mais je pense que les facteurs sont à prendre à la racine que de pouvoir faire des prévisions dans 3 ans. Puisque dans 3 ans, on aura encore d'autres Jeux olympiques. Mais est-ce que ça suffirait pour arriver là? Il y a plusieurs problèmes infrastructures, l'engouement, comment nous accompagnons nos athlètes déjà au niveau de la Fédération togolaise du football que nous connaissons. Vous savez, lorsqu'on cite tout ça, il y a beaucoup. Mais bon, beaucoup de Togolais aussi ne s'intéressent pas trop. À moins que ceux qui sont amateurs ou ceux qui s'intéressent pratiquement à ces jeux-là, chacun a sa passion. Mais je pense qu'il faudrait quand même réunir tous ces facteurs-là, prendre le map à la racine, dégringoler étape par étape pour qu'on arrive.
Juste un année, bonjour.
Pascal, bonjour à tous ceux qui nous suivent, à toutes celles qui également qui nous suivent en ce moment.
Voilà. Alors, c'est vrai que nous sommes en train de jeter un regard analytique sur la prestation des Togolais ou de nos athlètes au cours alors des JO qui viennent alors de fermer leurs portes. Alors, dites-nous aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas plutôt une autre politique en matière alors de l'athlétisme?
Mais tout à fait, parce que lorsqu'on évoque le cas des athlètes sur le plan continental, également ceux qui sont togolais, je pense qu'il y a lieu de revoir copie. Et moi, je ne peux pas comprendre que les temps passés, on organisait des compétitions, que ce soit les marathons, que ce soit handball, ici, par là, au niveau des établissements scolaires. Mais malheureusement, ces compétitions n'existent plus aujourd'hui. Et on va s'attendre à quel résultat au moment où on n'organise pas de compétition. On peut aller au JO pour faire de la magie. Tout est organisationnel. Tant que ce n'est pas fait, il ne faut pas s'attendre à des résultats. Donc, je ne me suis pas trop peiné à réfléchir, à mener des analyses sur le sujet, mais je me dis que tel que les choses évoluent pratiquement au Togo aujourd'hui, c'est la jeunesse qu'on met de côté, qui n'arrive pas à sortir d'affaires, que ce soit dans tous les domaines sportifs. On ne voit pas cette jeunesse-là qui, ailleurs, est plébiscitée et encouragée à aller. Parce que le sport aussi, c'est un facteur de développement. Vous ne pouvez pas parler de développement dans la gestion du pays tel qu'on le voit aujourd'hui chez nous au Togo, en écartant la jeunesse. Et je suis désolé. On était à une rencontre hier, on en parlait. Cette jeunesse-là qui est complètement oubliée aujourd'hui au Togo, hier c'était la journée internationale de la jeunesse. Donc, c'est autant d'éléments qui amènent à réflexion aujourd'hui. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, je ne pense pas qu'il faut s'inscrire dans la résignation. Je ne le pense pas. La logique plutôt, c'est de se battre pour sortir de ce calcan-là, de cette léthargie dans laquelle le Togo est plongé depuis des années. On n'arrive pas à s'en sortir et c'est la jeunesse qui paie le prix. Je suis désolé de le dire, mais c'est un constat qui est là. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour aller à des compétitions internationales et revenir avec des médailles. C'est de se leurrer. Donc, je pense que c'est une question qui est fortement organisationnelle. Lorsqu'on s'organise, on se prépare, donc le résultat suit.
Jean-Baptiste, c'est vrai que la moisson n'a pas été bonne pour le Togo. C'est-à-dire, nous n'avons aucune médaille au cours alors de ces JO. Mais est-ce que vous avez été surpris par rapport à la prestation des Togolais aux JO?
Bon, surpris, je ne dirais pas que surpris, même parce que vous savez déjà les conditions dans lesquelles nos athlètes ont préparé cette compétition ici, parce que vous avez vu, vous étiez témoin où on était là avec des tergiversations au niveau du gouvernement. Est-ce que les moyens doivent être mis à disposition de ces athlètes? Il y a eu beaucoup d'hésitations au début avant que le ministère ne se décide à la dernière minute. Mais tout ça a fait que peut-être le moral de ces athlètes n'étaient pas bien dopés au départ. Et pour les compétitions de ce genre, je crois que les préparations doivent se faire en amont sur une longue durée, parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour aller faire une compétition à ce stade et ne pas se préparer vraiment à fond. Et au-delà de la préparation, je mets dans la préparation, j'allais dire, des moyens surtout financiers, parce que la politique de développement du sport, on ne sent pas ça, on ne sent pas qu'il y ait vraiment une réelle volonté de développer le sport au Togo. On voit cela au niveau du football, on voit cela maintenant au niveau des autres disciplines sportives, et cela se ressent, parce que si vous ne mettez pas les moyens, il n'y a pas une réelle politique qui soit mise en place au niveau gouvernemental pour pouvoir développer le sport, je ne pense pas que les athlètes, les rares athlètes que nous avons, pourront aller faire des miracles. Mais c'est qu'il doit y avoir une réelle politique qui soit mise en place et implémenté pour que nous essayons quand même d'avoir des résultats, ou bien nous espérions des résultats. Mais s'il n'y a pas de réelle politique, on ne peut pas attendre à ce que les athlètes qui ne sont pas bien préparés, qui n'ont pas le moral bien dopé, puissent faire des miracles à Paris.
D'accord. Oui, Adam?
Moi, je pense qu'à la différence de ce qu'on constate, qui est devenu pratiquement récurrent, surtout lorsque nous prenons le football, lorsque le Togo se qualifie, on a des problèmes organisationnels. Des fois même, au niveau interne, des problèmes de motivation. La différence au niveau du comité olympique, c'est qu'on n'a pas eu des problèmes organisationnels, ni de motivation. Moi, j'ai eu la chance d'être invité pour la plupart du temps, ou que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau du président, qui eux-mêmes mettent de leurs moyens.
Se sont engagés.
Ouais, pour motiver en réalité, ce qui n'était pas le cas. Par le passé, lorsque vous comparez un peu la motivation liée donc à nos athlètes, on n'en a pas eu par le passé. Donc, quelque part, du point de vue organisationnel et de motivation, moi, je pense que la question est beaucoup plus infrastructurelle et structurelle également, liée au fait qu'il faudrait commencer à la... C'est pourquoi il dit, les prévisions ne doivent pas être dans 3 ans. Il faudrait quand même attaquer, je l'ai dit tantôt, le mal par les racines et faire en sorte qu'on ait une prévision peut-être de 6 ou de 9 ans. Les 9 ans à venir, ça veut dire 3 éditions de JO arrivées, qu'on puisse avoir des athlètes qui évoluent sur le territoire togolais, qui peuvent nous apporter des médailles.
D'accord. Alors, nous allons quitter le sujet. Eric, non. Nous allons parler d'un autre sujet. Hier, oui, rapidement,
hier,
Eric.
Je pense qu'il était même question de voir combien de personnes ont suivi ces 5 athlètes-là. Et je voudrais souligner un truc très important. C'est vrai que nous avons lu des choses sur les réseaux sociaux. Effectivement, nos athlètes ont eu des problèmes à Paris.
Ah bon?
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme problème?
Alors, il y a d'abord un budget qui a été fait par le Comité national olympique du Togo. Ce budget-là a été divisé par 5, par 6. J'ai eu l'opportunité de jeter un coup d'œil sur ce budget-là de presque 163 millions. Et finalement, ils n'ont reçu que 22 500 000. Alors, le comité olympique international a un canevas. Lorsque vous avez des athlètes qui sont qualifiés pour les JO, ils doivent être suivis par un certain nombre de personnes. D'abord, il y a ceux-là qu'on appelle les dignitaires. Il y a le président de la République, le premier ministre et le ministre des Sports. Et chacun de ces dignitaires-là, pour le président de la République, il doit être accompagné d'au moins 6 personnes. Le premier ministre de 2 personnes et le ministre des Sports d'une personne. Au-delà de ces dignitaires, il y a les membres du Comité national olympique du Togo qui doivent faire une délégation du président du comité, son secrétaire général, chacun d'eux accompagné d'une personne. Et il y a au-delà un photographe, un attaché de presse, vous avez et quatre chauffeurs, vous avez deux administrateurs, vous avez... C'est un canevas que le comité olympique international a
défini.
Et donc, toutes les délégations doivent avoir... Il y a deux médecins, dont un physio-médecin, mais que nous n'avons pas. Il y a juste un médecin qui a suivi la délégation. C'est-à-dire, quand vous allez sur le site du Comité olympique international, vous avez ce carnaval-là qui est établi. Maintenant, ce qui s'est passé avec notre délégation, et j'avoue que ce problème-là va se poser, parce qu'il y a une facture qui a été laissée là-bas. Hier, quand vous étiez en train de discuter du sujet, très rapidement, j'ai eu à contacter quelques amis. J'ai tenté de contacter le président du Comité national olympique du Togo. Et je crois que c'est autour de 22 heures que je l'ai eu finalement parce qu'il était en avion. La délégation togolaise rentrait.
Voilà.
Donc, pour moi, je me disais qu'il était encore à Paris, donc je pouvais l'avoir très rapidement. Mais ça n'a pas été le cas. Mais quand je lui ai posé la question, il me dit tout simplement qu'il n'a pas encore établi son bilan et qu'il ne peut pas me donner de plus amples informations. Je dis d'accord, mais moi, les informations que j'ai eues quand même sont crédibles. Et je veux juste savoir concrètement comment vous avez fait pour rentrer. Est-ce que vous avez laissé une ardoise? Il me dit qu'on en parlera. Bon,
d'accord.
Je dis aujourd'hui, cette situation-là, il ne faudrait pas que ça se retourne contre le pays. J'ai même vu au ministère des Sports des gens qui ont porté des maillots Togo pour les JO Paris 2024. Mais j'ai vu que les athlètes ont porté d'autres maillots. Et je me suis posé des questions. Pourquoi
c'est
surprenant? Parce que généralement, quand par exemple l'équipe nationale joue, nous tous on va chercher les maillots, même si c'est Medira ou je ne sais pas, on va chercher les maillots à l'effigie de l'équipe. Et c'est des maillots, c'est le maillot que l'équipe porte pour jouer que nous allons chercher.
Pour la plupart du temps, oui.
Pour la plupart du temps.
Oui,
mais
oui.
Comment se fait-il qu'il y a des maillots avec d'autres logos et les athlètes ont porté d'autres maillots pour
défiler. C'est des dysfonctionnements qu'il faut questionner.
Oui,
Pascal.
Il y a quelque chose, il ne faut pas s'alarmer. Vous savez, lorsque nous prenons le budget dans tous les pays, même en France jusqu'au jour d'aujourd'hui, le budget qui a été donc mis en place pour l'organisation des Jeux a explosé plus de 6 fois. Et la France, lorsque vous prenez le bilan, dit on ne peut pas tout de suite établir un bilan financier lié à ces JO-là. C'est vrai, il y avait eu des motivations faisant en sorte que les gens diminuent les hôtels, etc. Mais en termes de budget, aucun pays n'a pu soutenir, canaliser son budget. Donc, mais ce qui est important, moi, pour moi, ici, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. Lorsqu'on prend les JO, les JO, ça s'organise, le comité international ne donne que des médailles. Maintenant, ces gens-là ont eu la chance quand même de qualifier nos pays, ils sont 5. À l'interne, il faudrait quand même qu'il y ait des motivations. Puisque lorsque vous qualifiez, qu'il soit partout ailleurs, c'est le comité national ou le gouvernement qui motive les athlètes. Le comité international pour avoir un or, vous n'avez pas un franc. Donc, c'est là, moi, je dis l'essentiel, lorsqu'on arrive, il faudrait quand même qu'on puisse motiver à la hauteur de l'engagement, à la hauteur des efforts, ces athlètes-là. C'est ce qui est important.
D'accord, c'est ce qui est important. Alors, oui, nous allons quitter le sujet. On quitte le sujet pour parler d'un autre sujet.
Et, c'est ça que nous prenons la politique de...
Oui, mais voilà.
C'est une question de serpent de mer, ce qui se passe au niveau du comité olympique
on va en revenir, bien sûr, on va en parler. Il n'y a pas de souci. Au niveau du sport, même en général, bien sûr, nous savons quand même qu'il y a des soucis. Nous allons parler de la journée africaine de décentralisation et du développement local. C'est bien le 10 août dernier. Eric, vous avez écrit un article, bien sûr, là-dessus. Vous écrivez « Journée africaine alors de décentralisation et du développement local, une réflexion au défi de la gouvernance locale ». Alors, je voudrais qu'on en parle parce que tout récemment, il y a le maire du Golfe 4 qui a organisé une rencontre pour présenter même son plan. C'était le samedi dernier pour présenter le plan, ou du moins leur grande réalisation de 2021 jusqu'à 2024. À la tête alors de la mairie, ils ont présenté alors ces réalisations et des réalisations qui sont en cours. Le maire Jean-Pierre Fabre a fait savoir le samedi dernier que le Togo est en train de faire un semblant de décentralisation. Et eux aussi, j'essaie alors de l'accompagner. Alors, quand vous prenez cette déclaration, Eric, finalement, est-ce que vraiment on est dans un semblant de décentralisation?
Comme le dit Feu Nyasimbe Yadema, c'est celui qui est proche des toilettes qui sent l'odeur. Si le maire Jean-Pierre Fabre le dit, c'est lui, il est maire. Et donc, ce qui ne marche pas, il doit pouvoir nous le dire. Pourquoi il pense que c'est un semblant de décentralisation? La décentralisation, nous tous, nous savons, c'est la gouvernance locale. Alors, quand chaque année, le maire Jean-Pierre Fabre fait un bilan pour nous dire que financièrement, il est en excédent, ça veut dire qu'il a les moyens de faire la décentralisation. Mais s'il dit aujourd'hui que c'est un semblant de décentralisation, ça veut dire qu'en réalité, nos maires ne font rien. Le paradoxe est à ce niveau. Un semblant de décentralisation, est-ce que c'est structurel? Est-ce que c'est financier, c'est à quel niveau il parle de semblant de décentralisation? Pour répondre à ta question par rapport à la journée africaine de la décentralisation, nous savons tous que c'est le 10 août. Alors, le problème qui se passe et que les gens ont évoqué au cours de cette journée-là, c'est que nous faisons la décentralisation par rapport à ce que nous apprenons chez les Blancs, enfin, les Occidentaux. Il faudrait qu'on remette la décentralisation sur nos valeurs africaines. Parce que ils estiment que tout ce que nous appliquons aujourd'hui nous vient de l'extérieur. Est-ce que dans nos réalités, nous pourrons arriver véritablement à faire décoller la décentralisation? Alors, imaginez, aujourd'hui, on a fait les élections régionales. Il y aura bientôt des gouverneurs de régions. Mais est-ce que, à la base, nous savons comment les régions vont fonctionner avec les communes? Est-ce que c'est tout un tas de problèmes que les gens ont évoqués et qui souhaiteraient quand même qu'on ramène tout ça à nos réalités africaines?
D'accord. Justin, alors si justement, tant est que on arrime alors notre décentralisation à la décentralisation ou à celle alors de l'Europe ou des Occidentaux, est-ce que nous ne faisons pas vraiment un semblant de décentralisation?
Non, je partage entièrement ce que M. Fabre a dit. Et j'ai pas eu le temps, peut-être, j'ai pas eu l'invitation d'assister à cette rencontre-là.
Et de l'écouter.
Et de l'écouter, peut-être pour analyser ou pour mener à mieux ma réflexion. Mais seulement, je fais observer qu'on a eu le temps, on le dit, de par le passé, que lorsque vous comparez ce qui se passe aujourd'hui au Togo, sur la base de ce thème de décentralisation et de déconcentration, on parlerait plutôt de la déconcentration dans la décentralisation. Parce que le pouvoir qui doit revenir véritablement au maire, elle ne l'est pas. Maintenant, s'il faut peut-être payer un matériel de bureau, il faut peut-être avoir l'avis, peut-être du financier ou du ministre de la décentralisation, qui apparemment contrôle tout. Donc, sur la base de ces éléments-là, on ne peut pas parler de c'est pas décentralisation, parce au sens propre du terme. Il faudrait que les maires puissent avoir le pouvoir régalien sur leur administration, sur leur commune, et poser les bases réelles du développement. Mais si ces maires-là, ces élus locaux-là n'ont pas ces forces-là, n'ont pas les moyens, mais vous ne pouvez pas parler de la décentralisation. Moi, je parlerai plutôt de la déconcentration parce qu'aujourd'hui, il y a de multitudes de annexes de mairie qui est là, qui est là. Bon, vous y allez peut-être pour légaliser un document, c'est vite fait. Et ce n'était plus avant que le pouvoir est concentré dans la main du chef unique de la délégation spéciale ou de la commune. Ou d'autres attributions, là, on peut comprendre. Mais parler de façon réelle du développement à la base, et pour que les maires, les élus locaux puissent avoir véritablement le pouvoir régalien de diriger, moi, je n'en vois pas. C'est là où je partage la déclaration faite par M. Fabre.
D'accord. Jean-Baptiste, est-ce que finalement, quand on prend les maires aujourd'hui, oui, il y a des critiques qui leur sont adressées. D'aucuns disent que, mais écoutez, pour ce qui concerne leur mandat là, qu'il n'y a absolument rien qui est à leur actif. Il y a des gens qui disent des choses, hein, bien sûr. Mais toujours est-il que ces maires n'ont pas aussi le pouvoir ou la main libre alors pour faire ce qu'ils doivent faire.
Oui, moi, je crois que les responsabilités sont partagées parce que au niveau étatique, au niveau du gouvernement, la décentralisation qui a abouti, j'allais dire, en 2019 à l'organisation des élections locales, c'est une forme de pression. C'est au bout d'un certain nombre de pressions que le gouvernement a accédé à l'organisation de cette élection. Mais aujourd'hui, on voit que c'est comme si avoir les réactions, les actions, les déclarations ou les actions que pose le ministère de l'administration territoriale, on a l'impression que c'est une décentralisation forcée qui est en train d'être opérée au Togo. Parce que si nous voyons bien les pouvoirs qu'on confère aux maires, aux communes, c'est comme si on ne veut pas faire la chose, mais compte tenu des pressions, on est en train de faire un semblant de décentralisation. C'est ce qui transparaît parce que les moyens, c'est-à-dire les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de mairies qui n'ont pas de ressources financières pour pouvoir faire leurs activités. Et au-delà de ça, les compétences qu'on doit accorder aux maires pour qu'ils aient un pan de liberté pour pouvoir faire leurs actions, dérouler leur pouvoir sur le terrain, on ne voit pas ça. Tout est concentré au niveau de l'État, au niveau du ministère de l'administration territoriale, ce qui fait qu'il y a un blocage au niveau du fonctionnement des mairies. C'est ce qui est à déplorer aujourd'hui. Et donc, s'il va falloir faire des réformes au niveau de la décentralisation du processus ou bien des tests de loi, je crois qu'on doit quand même revoir les tests et donner plus de liberté d'action au niveau aux maires et surtout les moyens financiers doivent accompagner ce processus.
Est-ce que vous avez aussi l'impression qu'aujourd'hui les maires sont bloqués dans leurs actions à travers même d'ailleurs des tests élaborés pour en quelque sorte les bloquer tel que je le disais?
Non, vous savez, avant même de le dire, il faut savoir c'est quoi les tests du fonctionnement des mairies. Vous savez, aujourd'hui, les frustrations liées à la gestion de nos mairies, même au plus haut niveau, au sommet même de l'État, il y a beaucoup de frustrations. Pour la simple et bonne raison, d'abord, ces frustrations sont nées comment? Du fait que, dès à l'entame, cette volonté du gouvernement de pouvoir véritablement laisser ces mairies-là la liberté de choix, la liberté de développement de leur zone respective n'a pas été le cas. D'ailleurs, même vous prenez, moi, je pense que la source est née même après l'installation de ce premier palier de la décentralisation. Vous avez vu comment c'est passé au niveau des résultats. Cette volonté de développement, on ne l'a pas associée aux résultats attendus. dans ses cousins, cousines, on prend tout le monde, on met partout ailleurs. Vous prenez, moi, on m'a dit, entre-temps, on devait faire une formation liée dans, au marché public. On m'a dit, à l'ARMP, en temps de venir à la COP aujourd'hui, ne peut pas comprendre les marchés publics qu'il veut. Ne peut pas comprendre les marchés publics qu'il veut. Ça a besoin d'un niveau élevé pour comprendre les marchés publics. Lorsque vous prenez quelqu'un qui ne s'y connaît pas, vous voulez quoi? Vous voulez avoir des résultats? Et lorsque vous prenez, on voit des chefs cabinets, des gens qui n'ont aucune notion à la matière. Ça vous a dit quelque part, les maires eux-mêmes, dès à l'entame, ils n'ont pas associé le résultat à leur gouvernance locale d'abord. C'est le premier pas qui a tout faussé. Et donc, c'est ce qui a amené le gouvernement, après avoir constaté cette frustration, et on décaisse l'argent, on n'a pas les résultats, il fallait mettre les alternatives de contrôle. Puis c'est d'abord, vous prenez les mairies. Les mairies ont une forte potentialité de la gouvernance locale, mais une forte potentialité de l'administration. C'est le côté fort de la... Ce qui se passe dans les mairies n'est pas différent de ce que vous constaterez au ministère. Ce n'est pas différent. Mais regardez comment les choses se font à ce niveau. Comment ça s'est fait au niveau des mairies. Donc, vous voulez attendre quoi comme résultat? Mais moi, je pense que le maire Jean-Pierre Fabre est allé trop loin. Nous sommes toujours à l'étape d'apprentissage, parce que quelque part, pour arriver à ces résultats-là...
On a appris pendant 5 ans.
Non, mais oui, vous prenez vous prenez le Bénin qui a une très forte potentialité en matière de décentralisation. Il continue toujours pas à régler, parce que ce sont des problèmes qui amènent à pouvoir recadrer et organiser tout. Le gouvernement essaie de contrôler avec la mise en place de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales qui permet de au-delà de former également les administrés, ceux qui travaillent dans l'administration des mairies, parce qu'il a constaté que le mal est déjà là. Il faut les virer. Non, il faut les aider à réussir un peu le niveau.
D'accord.
Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du deuxième palier, qui est donc les régionales, c'est très difficile aujourd'hui. On ne veut pas avoir les mêmes problèmes. Voilà pourquoi vous constaterez que ça traîne de mettre les administrations, etc. Parce qu'on ne veut plus avoir les mêmes problèmes.
D'accord.
Non, ce que je veux dire, on peut parler des tests, mais me parler des finances, là, je ne peux pas être d'accord. Du moment où ce n'est pas seulement la mairie Golf 4 qui fait un bilan positif excédentaire, mais il y a eu Golf 5 aussi qui a fait un tel bilan.
Mais entre-temps, Golf 5 nous avait annoncé quand même que sa caisse était vide.
Oui, et après, quand il y a eu des entrées, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est là où le problème se pose. Quand Jean-Pierre Fabre dit que nous faisons un semblant de décentralisation et qu'eux aussi, en tant que maire, accompagnent ce semblant de décentralisation avec un bilan positif chaque année, je crois qu'il y a un problème. Et moi, je dis tout simplement que c'est au niveau des tests qu'il y a un véritable souci.
D'accord.
Parce que les maires sont allés très vite en besogne quand ils ont été installés. Ils ont commencé par prendre des pouvoirs qui n'étaient pas les leurs. Parce qu'il y a l'État qu'il faut déjà voir. Et maintenant, c'est aujourd'hui, vous savez, GIZ,
l'Allemagne
nous aide à former nos maires afin qu'ils puissent mieux comprendre les tests et les utiliser.
D'accord.
À bon escient.
Okay, merci beaucoup. Juste un seul mot.
Non, ça dit que vous savez que c'est une question de volonté politique. Et pour la simple raison que lorsqu'on parle de la décentralisation, en réalité, ce n'est pas une question qui doit quand même dater de dernière période. Et vous vous souvenez que le 14 avril 2004, feu Premier ministre Edem Kodjo Edjoa, au nom du Togo, a pris les 22 engagements et c'était recommandé.
À Bruxelles.
À Bruxelles, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est fait que depuis là, on a mis tellement du temps et que, comme l'a fait, vous savez tout à l'heure, comment l'appelle Jean-Baptiste, sous la pression, c'est parce que vous dites que vous faites la démocratie, on attend de vous le développement à la base. Et que dans la précipitation, on a organisé ce que nous avons vu là avec les résultats qui sont sortis. Et c'est purement politique. Le constat est là aujourd'hui qu'il y a un seul parti politique qui a pris tellement la majeure partie même de ces communes. Et sans pour autant quand même préparer en amont ceux-là qui vont avoir le pouvoir quand même de diriger ces communes-là. Et même le siège qui devait quand même abriter. D'accord. Et voilà, je n'en dis combien pas. Mais pas sur la base de ces éléments-là, et le constat qui est là, c'est parce qu'il y a OTR et qui presse, vous êtes obligé maintenant de payer les taxes, ainsi de suite, comme ça se fait, qui ramène à la question de les dépendances de la gestion financière même de sa commune.
Ok, nous allons revenir sur le sujet, mais toutefois, permettez quand même que nous donnions aussi la parole à nos auditeurs, puisqu'il est déjà midi. Nous allons donner la parole à nos auditeurs qui s'impatientent à entrer en ligne sur le 90 86 35 35 ou 91 36 sur 315. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir. Premier auditeur que nous avons en ligne. Allô? Allô, bonjour. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, et chez vous?
Ça va aussi, par la grâce de Dieu.
Je suis avancé, j'ai tenté, fatigué.
Oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes en ligne. Votre nom, c'est...
Moi, ce qui me gêne... Hein.
Oui, s'il vous plaît, votre nom, c'est...
On m'appelle Rachid.
Rachid.
Raki.
Raki. Vous nous appelez de quel quartier?
La Dédicopé.
La Dédicopé, allez-y.
S'il vous plaît, ce qui me gêne, le fait que les taximans roulent avec les gaz, là. On n'a qu'à nous voir ça, hein.
C'est
pas dangereux.
Ah, okay. Oui, allez-y, Raki.
C'est ça qui me préoccupe, quoi.
D'accord, ok.
On n'a qu'à nous voir ça.
D'accord, merci beaucoup, Raki.
Merci beaucoup, bonne journée.
Merci beaucoup, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse et participer au débat de ce mardi, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce mardi. Intervenez. Allô?
Oui, bonjour. Grâce à Dieu d'État.
Oui, bonjour.
Apollinaire depuis Noukafo.
Apollinaire depuis Noukafo. J'espère que vous allez bien.
Oui, on va, grâce à Dieu.
Allez-y.
Bonjour, grâce Jean-Baptiste Akito.
Oui, bonjour, mon frère.
Comment vous allez?
Nous rendons grâce à Dieu.
Ok, s'il vous plaît, j'ai une question pour vous.
Ok.
J'aimerais savoir, est-ce que vous aussi, vous avez information sur le problème de Arabia, sur le Tamboum? Et en plus, ça, j'aimerais interpeller nos cadres qui sont de Yota.
Oui.
Pour écouter le cri du président Arabia FC concernant le financement, quoi. C'est ça que j'aimerais vous interpeller concernant
okay.
Ça.
Merci bien.
Merci beaucoup.
Apolliné, merci. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Allô? Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Allô.
Oui,
bonjour.
Madame Messi.
Je ne pas avoir. Je ne savais pas où j'avais piqué la ligne. Voilà, on est là pour ça, non, Pascal. On n'a rien à faire, quoi.
Non, je pense que les.
Voilà,
les
vous avez personnes... parlé de livres et de la musique, hein, c'est ça?
Oui, justement.
Voilà, livres et musique. Voilà, les Togolais affublés de tellement de problèmes qu'il est dépité de tout, quoi. Le Togolais ne lit pas, ne s'informe guère, et puis il n'écoute même pas de la musique. Moi, je suis dans la musique toute la journée, à ressasser mes idées noires, et puis voilà, à attendre que ça se passe. Et puis la décentralisation centralisée, voilà, la décentralisation. Et ils nous ont pas organisé de local durant 30 ou 35 ans. On a été géré par la délégation spéciale qui ne nous a rien fait, même pas de bilan. Et après, quand ils ont décidé à le faire, ils ont morcelé le golfe en petits pains et ils en ont phagocyté les 90%. Et puis le reste, ils n'ont même pas donné de budget conséquent aux autres mairies pour nous faire du bien. Et c'est pour cela que l'alternance est très importante dans une république. si on alternait, et on n'aurait pas tous ces problèmes existentiels, quoi. Les gens ne vont pas phagocyter la République comme leur bien, et puis régner sur nous comme des demi-dieux. Voilà. Et tout serait fluide. Voilà. Tout serait fluide, quoi.
D'accord. Ok.
On serait heureux. Et oui, et c'est pour cela qu'il faut alterner tous les 5 ans, même c'est trop pour les Togolais.
Merci beaucoup pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est monsieur Mauto.
Oui, monsieur Mauto. Allez-y.
Salut, plateau. Mon intervention porte sur le sport. Oui. J'aimerais poser la question à monsieur Eric. Est-ce que tu peux me donner le sport partenaire du chef de l'État? Quel sport? Parce qu'il est là depuis après 20 ans. Le sport et le football a un sérieux problème. Il refuse de résoudre ce problème-là. Et chaque participation, ce que sont les Jeux olympiques, des compétitions, des coupes africaines, on veut que seulement que le Togo ait une intégration. Moi, je ne comprends pas. Peut-être que si vous me donnez le sport qu'il aime, on va l'aider et il va mettre la danse dedans et ça va prospérer, quoi. Merci, bonne nuit.
D'accord. Merci, M. Mauto, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 33, 115. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, allô, bonjour.
Oui, allô?
Ah, décidément, il n'a pas de retour.
Bonjour.
Oui, comment vous allez?
Allô? Oui, c'est M. Daniel.
Oui, M. Daniel, vous nous appelez de quel quartier?
Bonjour, bonjour, c'est M. Daniel.
Oui, M. Daniel nous appelle de quel quartier?
Très bien, très bien. De Sagbado.
D'accord, allez-y.
Sagbado. Ok, c'est par rapport au sport. C'est, le problème du Togo dans le domaine du sport, on constate que le Togo n'a pas une politique de développement du sport. C'est ce qui fait que tout temps, les athlètes, même les épreuviers, tous, quand on participe à une compétition, nous sommes toujours les derniers. Nous sommes toujours les derniers. Par exemple, pour ces Jeux olympiques où le Togo a fait qualifier les athlètes qui vont participer, les sociétés d'État, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir accompagner la délégation? On a vu ce qui s'est passé à une fête traditionnelle où Togo Télécom et Togocom et autres là se sont mobilisés, où le port, tous se sont mobilisés pour aller là-bas. Est-ce qu'ils ont mis les mêmes moyens pour pouvoir accompagner cette délégation pour les JO? Voilà. C'est ce qui se passe au Togo. Donc il faut qu'on laisse en dehors du ministère et du CNO. Donc les autres, il faut que les autres sociétés aussi accompagnent le ministère pour faire pour évoluer le sport au Togo.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Daniel, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 115. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
C'est monsieur Kokou.
Monsieur Kokou, vous nous appelez de quel quartier?
Tokoueranko,
allez-y.
S'il vous plaît, j'aimerais nous éclairer un peu sur le cahier que les élèves vont utiliser cette année. Parce que j'ai appris comme quoi le 12 juillet passé, il y a un communiqué ministériel qui s'est sorti.
Pardon? Oui. On a un peu du mal à vous écouter. Voilà, vous parlez de quoi?
Des cahiers des élèves.
Ah, d'accord, ok. Oui, mais voilà, ok, d'accord.
Il y a un communiqué qui s'est sorti le 12 juillet. Il nous dit que les cahiers auront sur première et deuxième page l'hymne national, premier, deuxième et troisième cyclé, et autre chose, quoi. Je ne sais pas si c'est vrai.
Ok, merci beaucoup. Nous allons revenir sur le sujet. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros. Vous pouvez réagir au club de la presse de ce mardi. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Il nous reste encore quelques minutes avant de passer à autre chose et clôturer bien sûr cette émission. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Comment vous allez? Votre radio qui est à côté de vous, je vais vous prier alors de diminuer son volume.
Bonjour monsieur.
Oui, comment vous allez?
Tu vas bien.
Votre nom c'est...
C'est monsieur Patrick.
Monsieur Patrick, votre radio fait toujours du bruit. Diminuez un peu
son volume. Je vais intervenir concernant le monsieur qui vient de quitter avant celui-ci. Là. Il parlait de Togocom là. En fait, Togocom c'est une société commerciale. Et quand ils vont dans leur déballage, ce n'est pas Togocom seul. Il y a les assurances, il y a Mouvo. Et ils vont pour vendre. Ils ne vont pas pour soutenir les déballages, non. Ça, les gens parlent, c'est parce que je ne sais pas, il faut parler de comment. Il n'y a aucune société qui va là-bas pour soutenir les déballages. Mais eux, ils vont tout juste pour faire leur commerce. Donc, c'est ça que je voulais intervenir.
D'accord. Merci, Patrick, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô? Allô, bonjour.
Allô, bonjour, monsieur.
Oui, comment vous allez?
Ça va bien.
Votre nom, c'est?
C'est Maoli.
Maoli, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Wanyomé.
D'accord, allez-y.
Ok, et moi, j'ai une suggestion aussi à propos de l'émission. Ça veut dire que nous appelons tous les jours, presque à tout moment, mais on n'arrive pas à avoir la chance d'être sollicité pour parler. Parce qu'à chaque fois, vous êtes occupé. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a les gens qui passent au moins deux fois dans la journée. Dans la même émission, c'est comme eux qui sont les privilégiés, quoi.
Alors,
moi, oui, mais... j'aimerais que peut-être que à l'avenir, là, quand vous partez une seule fois, c'est fini, vous ne pouvez pas repasser deux fois.
Mais, monsieur Maoli,
moi, c'est mon point de vue.
D'accord, monsieur Maoli, d'accord, merci beaucoup pour votre intervention et votre suggestion. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. L'émission se fait une seule fois dans la journée, hein, puisque quand vous parlez même d'ailleurs de deux fois dans la journée, qui des gens passent alors sur nos antennes. Et pratiquement, le principe de l'émission Club de la Presse, c'est que chaque jour avec ses invités, vous verrez que nous avons chaque jour une équipe qui anime l'émission et avec des confrères journalistes, bien sûr, qui animent l'émission avec nous. Et aussi, bien sûr, nous avons d'autres débatteurs aussi. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Voilà, nous revenons en plateau, ce qu'on ferait, nous revenons en plateau pour les questions, peut-être répondre à certaines questions. Et, Adam?
Oui, moi j'aimerais intervenir sur la question liée aux emblèmes. Sur les cahiers,
oui.
Ce que l'auditeur évoquait. Je pense que cela a été une motivation en réalité pour permettre à ce que nos emblèmes et nos symboles soient connus. Parce que l'expérience a montré que lorsque vous prenez les cahiers où il y a les tables de multiplication, etc., vous voyez que les enfants reviennent et ça suscite l'attention et qu'ils font usage souvent de cette table de multiplication. Donc je pense que, mais il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas une formule rigoureuse sur la question, puisque la première expérience serait cette année, c'était l'année dernière que ça avait été, le ministère a bien voulu que les opérateurs économiques puissent donc mettre les emblèmes et les symboles pour permettre, pour susciter en tout cas un élan de patriotisme au niveau des enfants. C'est le cas qui l'évoquait, donc c'est pour cela.
Merci beaucoup Adam. Eric?
Oui, moi je voudrais d'abord répondre à un ami qui m'a interpellé pour savoir c'est quoi le sport du chef de l'État. Je veux lui dire que
favori
du chef de l'État. Je veux lui dire que le chef de l'État est un athlète. Et selon nos informations, il marche beaucoup et donc pratiquement tous les jours. Et je crois que le problème du sport au Togo. C'est pas seulement au niveau de l'État.
mais c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire, quand vous prenez le palier, vous descendez jusqu'en bas, il y a toujours des blocages à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'il est recommandé que, quand c'est comme ça, qu'on fasse les états généraux du sport au niveau du ministère des Sports pour savoir ce qui ne va pas et pourquoi il y a autant de blocages. Et surtout, il y a des problèmes de personnes qui... agissent sur notre sport. Des gens qui s'entre-déchirent et qui n'arrivent pas à travailler alors qu'on les a mis à des postes de responsabilité. Des gens qui, parce qu'ils ont un pan de pouvoir, ne veulent rien céder, veulent tout contrôler alors qu'il y a des dispositions qui ne leur permettent pas d'aller au-delà de leurs prérogatives. Je crois que c'est autant de situations que nous vivons et ça agit sur notre sport. Maintenant, pour finir, au niveau de la décentralisation, c'est vrai, on a eu presque 30 ans de délégation spéciale et je crois qu'aujourd'hui, quand on a ouvert un peu la vanne pour que nous puissions élire nos représentants locaux, il y a un problème de connaissance des tests qui s'est posé tout de suite et je crois que l'État doit encore faire plus d'efforts pour que les structures décentralisées puissent fonctionner à merveille.
D'accord, merci beaucoup Eric. Oui, Justin ?
Oui, j'ai écouté les uns les autres, je n'ai pas de commentaires particuliers à faire, mais peut-être que c'est une interpellation à l'endroit de ces autorités-là, lorsqu'elles sont invitées à prendre part des fêtes traditionnelles et culturelles chez nous. Actuellement, c'est, je veux dire que c'est de la mode. Donc, il faut essayer de dépolitiser nos valeurs culturelles et traditionnelles. Lorsque vous vivez dans un pays normal, lorsqu'un chef de l'État est élu à la régulière, donc il devient le premier président, le numéro un de toute la nation, pas pour une seule communauté. Et à partir de ce moment-là, il a l'obligation de résultat. Il a l'obligation d'amener tout le peuple, toutes les communautés, toutes les tribus à bon port. Donc, c'est pas l'occasion de lui faire des éloges pour dire voilà. C'est trop politisé au Togo, il va falloir que ça soit dépolitisé un peu.
D'accord. Merci, Justin. Jean-Baptiste ?
Oui, bon, j'ai trois points à évoquer. Le premier, rapidement, concernant le sport. Je crois que nous l'avions dit tantôt, mais revenir là-dessus parce que au Togo, tout le temps, on parle de problèmes au niveau du sport ou du football, mais je crois qu'on doit toujours mettre l'accent sur une réelle volonté politique de faire du sport une priorité, développer le sport. Parce que d'abord, ce développement dont moi j'ai toujours parlé, ça commence par le budget. Quel est le budget qu'on alloue à ce département ministériel? C'est à travers ce budget-là qu'on sent réellement une volonté de faire évoluer le sport togolais. Mais si peut-être on prend un millième du budget pour allouer au sport, je crois que les tenants, c'est-à-dire les occupants de ce département, quelle que sera leur volonté, il n'y aura pas quand même un déclic.
D'accord. Au niveau deuxième et troisième point.
Je veux marcher sur ta langue en disant que pour le sport que je connais très bien, le basketball, la fédération de basketball a un budget de 12 millions par an. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 12 millions? Oui, il y a de cela deux ans, c'était 9 millions.
Vraiment, avec ça, là, on ne peut pas évoluer.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire?
Le deuxième point dont je veux faire...
Rapidement.
La décentralisation, je crois qu'il y a beaucoup de couacs au niveau de la décentralisation. On a l'impression que c'est une décentralisation qui est centralisée parce que on ne laisse pas réellement la main. Parce que dans certains pays qui font le processus là, il y a beaucoup de structures qui sont au niveau, qui sont mises à la disposition des communes.
Le troisième point.
C'est ça.
Troisième point.
Troisième point, c'est un des auditeurs, notamment M. Apollinaire, m'a interpellé par rapport à l'équipe de Tablegbo, Arabia FC. Je n'ai pas connaissance du problème qu'il a évoqué, mais bon, si tu le permets, je peux donner mon numéro. Il pourra m'appeler pour que moi aussi j'aille aux nouvelles et lui faire part de cela.
D'accord.
Je suis au 92 41 16 66. 92 41 16 66.
D'accord, merci beaucoup Jean-Baptiste Atisso d'être passé dans cette émission. Adam Adrodon, merci à toi d'être passé aussi dans cette émission. Eric Pakoudou-Josson, merci d'avoir contribué à ces débats avec tes réflexions. Merci d'être passé, bien sûr, c'est ça moi. Fait plaisir. Justin Anani, merci à toi d'être
c'est,
passé
c'est avec dans plaisir, cette
émission.
Avec
ça fait
plaisir.
Toujours plaisir d'être avec vous pour animer cette émission. Nous sommes à la fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis.
Il va même pas merci. Quitter le studio.
Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Kiki Sosa qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Akoutcha. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain, mercredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.